Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 23 août. Météo France prévoit des températures encore caniculaires ce mercredi sur toute la France et notamment à Lyon, 39 degrés. Vigilance rouge, canicule inédite dans le Rhône et les mesures se précisent, notamment du côté de la ville de Lyon. Le festival Woodstower maintient son édition 2023, mais les horaires sont revus. Connaissez-vous l'habitat coopératif ? En clair, entrer dans une coopérative d'habitants plutôt que d'être locataire ou propriétaire de son logement. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. La mort de Pierre-Olivier Guanot à 56 ans. L'entrepreneur avait participé au développement de plusieurs sociétés dans le secteur des biotech.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Météo France prévoit des températures toujours très élevées ce mercredi sur toute la France et encore demain jeudi sur la moitié sud. 39 degrés cet après-midi à Lyon, jusqu'à 40 demain. À Lyon, cela fait 12 jours que le seuil des 34 degrés est franchi. L'épisode caniculaire qui a débuté le 12 août dans le sud-est s'affiche déjà comme le plus intense jamais recensé après un 15 août. La vigilance rouge canicule est inédite également dans le Rhône et les mesures se précisent. Le gymnase Anguin de la rue de Condé dans le deuxième est mis à disposition par la ville de Lyon. La Croix-Rouge opère pour l'assistance, la mise au frais de personnes fragiles et la distribution d'eau avec une priorité pour les personnes à la rue. Pour l'instant, pas de remontée particulièrement élevée d'appels du SAMU ou d'appels dans les hôpitaux. En direction des personnes à la rue, la préfecture a demandé aux structures faisant des maraudes de doubler leur tournée de jour. Concernant les manifestations publiques, sportives ou culturelles, la préfecture est en contact avec les organisateurs pour des mesures d'adaptation au cas par cas. Cela concerne l'aménagement de zones ombragées, de distribution d'eau, de décaler les heures de manifestation, voire de l'interdiction de vente d'alcool. Pour le festival Woodstower à Vaux-en-Velin, l'ouverture des portes mercredi et jeudi est reportée de 17h30 à 18h30, avec annulation des concerts prévus à 18h. La vente d'alcool débutera qu'à partir de 19h. Les concerts, bien sûr, de soirée sont maintenus. Principal événement public cette semaine, Woodstower doit accueillir près de 15 000 personnes par jour dès ce mercredi au parc de Miribel-Jonage. Concerts rap ou électro, artistes internationaux mais aussi locaux. Le public pourra retrouver la chanteuse belge Angèle ce soir à partir de 21h30. La métropole de Lyon met en place des dispositifs pour protéger les habitants de la canicule jusqu'à samedi inclus. Les musées des Confluences et Lugdunum, Gadagne et les Beaux-Arts, habituellement payants, sont gratuits. Les parcs de Paris et la Croix-Laval restent accessibles, y compris en soirée pendant cette période caniculaire. Le parc de la Tête d'Or est ouvert exceptionnellement jusqu'à 23h30, Jarlan et Blandan jusqu'à minuit. Le plan bleu est activé dans tous les EHPAD de la métropole. Les agents du Grand Lyon appellent quotidiennement par téléphone les personnes vulnérables, femmes enceintes, parents de jeunes enfants, personnes en situation de handicap. Ils effectuent également des visites à domicile pour les personnes dont la situation le justifie. Les maraudes dans les squats et les bidonvilles sont également intensifiées. Au niveau de la ville de Lyon, les activités sportives des centres de loisirs EHOP sont suspendues et remplacées par des temps calmes. La ville a diffusé une cartographie des 600 lieux de fraîcheur, une carte qui recense les bibliothèques ou les musées climatisés, mais aussi les parcs, jardins, monuments, traboules et rues ombragées. La ville propose également des parcours frais agréables à faire en cas de forte chaleur. Notez que les mairies des 3e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements mettent à disposition des salles climatisées pendant leurs horaires d'ouverture.
Lyon Demain, découverte.
Vous êtes à la recherche d'un logement à Lyon ou autour de Lyon, vous avez le choix entre acheter ou louer. Mais sachez qu'il existe aussi une troisième voie, l'habitat coopératif. En clair, entrer dans une coopérative d'habitants. L'un des projets les plus aboutis se situe par exemple à la Croix-Rousse, à l'origine constitué d'un groupe d'habitants désireux de pouvoir rester dans leur quartier et de maintenir une offre très sociale de logement. Le groupe du 4 mars, G4M, s'est réuni pour la première fois le 4 mars 2009. Les premières années ont été consacrées à la définition des valeurs, à l'apprentissage de la vie en groupe et à la recherche de foncier dans un quartier victime de gentrification. Après avoir trouvé un terrain en 2014, le G4M a créé une SAS coopérative en 2016 et a officialisé un partenariat avec Aliad Habitat, bailleur social. Cette même année, l'architecte a été choisi. 8 ateliers participatifs allaient permettre d'élaborer en commun l'immeuble du Cairn durant l'année 2017. Le chantier en 2018, première pierre fin d'année 2018. L'immeuble allait être réceptionné le 26 6 novembre 2019. L'ensemble comprend aujourd'hui 24 logements et des espaces communs. Autre exemple à Villeurbanne, le village vertical s'est concrétisé en juin 2013 avec l'aménagement de 14 ménages, dont 11 de coopérateurs. Et les initiatives se multiplient aux quatre coins de la métropole. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Roger Dumont, l'un des membres d'Abicop Aura, une association qui accompagne les porteurs de projets de construction ou de réhabilitation d'anciens bâtiments.
La coopérative d'habitants, c'est une troisième voie du logement entre la propriété et la location. La coopérative est propriétaire du bien que l'on va habiter, donc les coopérateurs qui sont sociétaires de la coopérative ont pris des parts sociales de cette coopérative et donc ont droit d'accès et d'usage des appartements qui vont être construits. Donc ça change complètement la donne parce que ça retire complètement le bien immobilier du marché, puisqu'il reste de façon tout à fait indéfinie la propriété de la coopérative. Ça veut dire que personne ne peut vendre l'appartement qu'il occupe, que la coopérative reste propriétaire de façon illimitée dans le temps de ce bien. Et les coopérateurs qui ont pris des parts sociales sont tout à fait libres de la quitter, en sachant qu'ils retireront, on leur remboursera leur part sociale, et pour qu'ils ne perdent pas d'argent. Alors évidemment, ils ne feront pas de plus-value, mais au niveau de la coopérative, la charte fait qu'ils seront remboursés sur la valeur des parts sociales, réévaluées par rapport au coût de la vie.
On s'affranchit totalement du bailleur ?
Le bailleur, c'est nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que c'est la coopérative qui est aussi un bailleur. D'ailleurs, on peut faire référence à ce qui existe autour de nous. Par exemple, la Suisse est un pays voisin qui a développé énormément ce concept. D'abord, sans doute, parce qu'il n'y a pas de bailleurs sociaux en Suisse et que donc, ça relève de l'initiative citoyenne. Abicop, au départ lyonnais, puis ensuite Abicop Fédération en 2015, donc 10 ans après, ce qui fait qu'on voit tout de suite l'évolution un peu qu'a donné aussi la loi Allure en 2014, hein. Cette façon d'habiter permet l'antispéculation, ce qui fait que ce concept est actuellement très soutenu par les politiques, par les collectivités, donc ce qui fait qu'au niveau local, on a le soutien de la métropole, de la ville de Lyon, de la ville de Villeurbanne, et donc on peut envisager avec de tels partenaires des implantations de coopératives sur différents quartiers, puisqu'il y a même une volonté de voir se réaliser une coopérative par arrondissement sur Lyon, et au niveau de la communauté, sur la métropole, puisque la métropole est surtout l'aménageur de l'agglomération, donc on a des projets sur alors des ZAC, comme à Saint-Fond, comme à la Sauvegarde à la Duchère. Il est question de projets sur la ZAC des Girondins, là où déjà des groupes se sont constitués pour aller habiter donc tout près du boulevard Ifarge. On a différents groupes qui sont déjà constitués et qui habiteront dans 2 ou 3 ans un bâtiment qui sera une coopérative d'habitants. On a aussi des propositions de la collectivité pour aller s'intéresser au devenir par exemple de la Soleil, au devenir de tout ce tènement en face de l'hôpital Lyon-Sud. Voilà, il y a une vision un peu d'avenir et actuellement, dans la mesure où on s'inscrit aussi contre la spéculation immobilière qui rend la ville de Lyon, par exemple, complètement inabordable pour beaucoup de foyers, on est devenu intéressant pour la collectivité.
Au-delà de la spéculation et d'éviter cette spéculation, il s'agit aussi de réinventer un petit peu le fonctionnement au quotidien.
Alors donc, c'est un mode d'habiter totalement innovant, puisqu'on est évidemment sur le concept de l'habitat participatif. Donc ça veut dire que chaque sociétaire coopérateur, puisque je parle des coopératives, que non seulement on va pouvoir réfléchir à l'aménagement de son habitat, c'est-à-dire que ça commence à la conception, c'est-à-dire qu'on peut avoir des groupes qui seront peut-être même dans l'autopromotion, c'est-à-dire que voilà, ils vont conduire leur projet de la conception jusqu'à la réalisation. Alors, suivant les compétences du groupe, des personnes qui constituent le groupe, il peut y avoir des gens qui ont les compétences, les capacités, les connaissances, hein. On peut avoir des gens qui progressivement se sont formés, ou alors, s'il y a des lacunes, s'il y a des besoins, on peut alors se retourner vers des des structures professionnelles qui vont permettre une assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun alors, dans ce genre de,
alors,
d'habitation ?
C'est évidemment le mot-clé. Hein, qu'est-ce qui est commun ? Alors évidemment, des espaces. Alors très souvent, ce qui permet au groupe justement d'entrevoir une continuité dans la façon de vivre ensemble, mais chacun chez soi, ce sont par exemple les salles communes, ce sont par exemple les chambres d'amis, c'est les espaces communs par exemple comme les ateliers, comme le garage à vélo, comme le jardin s'il en est, la buanderie et la bibliothèque, enfin bon, tout ce qui est mutualisable, et ce qui fait qu'on a ainsi comme ça la possibilité de faire des économies d'échelle, hein, puisque par exemple l'électroménager va être utilisé et va pouvoir être utilisé par l'ensemble des habitants. Au niveau du fonctionnement, donc la gestion est en autonomie, hein, on a affaire à là carrément un concept d'autogestion, et il y a une administration, c'est-à-dire que ça reste collégial, les décisions se prennent au consentement et on a affaire à réellement une responsabilisation des habitants, et c'est ce qui fait que voilà, il y a un engagement qui amène à envisager l'habitat comme un vrai projet de vie, quelque chose qui sort un peu de ce qu'on connaît au niveau de la difficulté de lier lien avec ses voisins, d'autant que la coopérative se veut aussi être un lieu ouvert à l'extérieur. Quand la salle commune peut être ouverte aux réunions de quartier, voilà, ça peut être aussi un lieu peut-être d'exposition, de conférence. Donc il y a aussi cette volonté de s'ouvrir à l'extérieur sur le quartier.
Et enfin, il y a une structure qui existe, ça s'appelle la Fabrique de l'Habitat Participatif, qui sert à quoi ? À former un petit peu à ce fonctionnement ?
C'est vrai que la tendance actuelle, on le voit bien au niveau des jeunes ménages que nous rencontrons, il y a de plus en plus cette volonté un peu de réflexion à une autre façon d'habiter. La réponse qui peut être apportée, c'est celle de l'habitat participatif, ce qui regroupe différents modèles, différentes formes juridiques, différents modèles économiques. Et récemment, on a créé deux associations au départ, c'est Coaptitude et Abicop Aura, plus 5 structures professionnelles ont créé la Fabrique de l'Habitat Participatif. Son objectif, c'est de promouvoir et d'aider l'émergence de projets et d'aider les groupes à faire aboutir leurs projets. Donc là aussi, il y a un soutien de la collectivité, de la métropole, il y a un subventionnement, et on espère que justement, par cet outil, par ce dispositif, les gens pourront avoir à leur disposition de l'information, des visites, des forums, des bourses aux projets, et je pense que au travers de cet outil, il y a là la possibilité aux gens, pour les gens, de mieux connaître tous les aspects de l'habitat participatif et toutes les formes qui existent.
Pour en savoir plus, abicop.fr, la Fabrique de l'Habitat Participatif, dont le siège est à Rieux, a aussi un site internet, lafabrique-hp.fr. On apprend la mort de Pierre-Olivier Guanot à l'âge de 56 ans. L'entrepreneur avait participé au développement de plusieurs sociétés dans le secteur des biotech. Il avait cofondé et dirigé la société biopharmaceutique lyonnaise Heritech Pharma de 2004 à 2015. Il avait présidé également France Biotech de 2014 à 2016. Pierre-Olivier Guanot dirigeait dernièrement Stromacare, entreprise basée à Lyon 8e et qui travaille sur le développement de thérapies en oncologie. Il avait aussi cofondé la Maison de Blandine, qui propose de l'habitat partagé accompagné pour personnes âgées. L'Institut Lumière va diffuser l'intégralité des films du cinéaste David Lynch à partir de demain et jusqu'au 8 octobre. Première séance, donc jeudi 24 août, à partir de 18h à l'Institut Lumière, avec la projection d'Une histoire vraie, film qui date de 1999. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Restez au frais, essayez de vous maintenir au frais. Et on se retrouve demain pour une prochaine édition.